Bonjour. Merci beaucoup à Tatiana Giraud de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à faire le séminaire suite à son cours aujourd'hui. Je suis très touchée. Et puis, juste me présenter rapidement. Donc, je suis Ophélie Ronce, je suis directrice de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'évolution et effectivement de modèles mathématiques. Au départ, on ne va pas trop parler de modèles, on va parler un peu de la question qui motive les modèles mathématiques que j'essaye de faire et voir comment à la fois l'évolution et cet exercice de modélisation, qui est un exercice d'imagination, peut nous aider à comprendre des problématiques actuelles, contemporaines et très présentes, qui, dans ce sur quoi je vais me focaliser aujourd'hui, c'est les problématiques d'adaptation au changement climatique contemporain en particulier. Donc, je ne vais pas vous parler de ces questions en général, mais je vais vraiment me focaliser sur ce cas-là. Donc, comme vous le savez tous, le groupement international d'experts sur le climat se réunit désormais depuis de nombreuses années et émet régulièrement des rapports pour faire un consensus sur ce que la communauté scientifique, au sens large des climatologues, mais aussi des gens qui travaillent sur la biodiversité, comprennent du climat et de ses impacts. Et donc, le consensus, donc ça, c'était le rapport du GIEC de 2018. Le consensus, c'était qu'effectivement, on observe un réchauffement des températures de l'ordre de 1 degré supérieur aux moyennes historiques pré-industrielles, que ce réchauffement est dû essentiellement aux activités humaines, et notamment à l'émission des gaz à effet de serre, et qu'en utilisant des simulations et d'autres types de modèles physiques du climat, et des modèles de développement socio-économique de nos sociétés, on peut prévoir que ce réchauffement, même dans les scénarios les plus optimistes, va se poursuivre pendant plusieurs années dans l'avenir. Donc ça, c'était le rapport de 2018. Je ne vous ai pas mis les projections... Enfin, ça, c'est le rapport qui est sorti en août 2021, cet été, qui est encore plus pessimiste sur les projections futures des taux de réchauffement qu'on risque de rencontrer dans la planète. Et je vous ai mis ces cartes pour vous montrer que l'intérêt de ce rapport, sa particularité, c'est qu'il s'intéresse aux variations régionales du réchauffement des températures de surface et qu'on a une grande hétérogénéité, quel que soit le scénario, avec des zones qui vont se réchauffer beaucoup dans l'avenir. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste du climat en soi, je suis une biologiste de l'évolution qui s'intéresse à la biodiversité, mais ce changement climatique... il y a aussi un fort consensus pour penser qu'il va avoir un impact majeur sur la biodiversité, non seulement sur nos activités humaines et sociales, mais sur la biodiversité et la vie qu'abrite la Terre. Donc, pour quelles raisons ? C'est assez intuitif. Tout d'abord, il est bien connu, et je pense que vous en avez tous une perception intuitive claire, que différentes espèces qui habitent la planète aujourd'hui se sont adaptées à des climats différents et possèdent des caractéristiques qui leur permettent de persister, de se reproduire et dans différentes parties du monde avec des climats très contrastés. Donc, en particulier, c'est tellement vrai que les traits des espèces leur confèrent des adaptations à des climats bien spécifiques qu'on peut assez facilement prédire où se trouve une espèce particulière à partir du climat local. Par exemple, ici, le hêtre, qui est une espèce emblématique et typique des forêts européennes. On peut utiliser les petits points blancs. Ici, c'est des sites où on sait qu'on a des présences de hêtre. On peut utiliser les données sur le climat local dans ces localités et par un exercice de modélisation essentiellement statistique ou plus ou moins mécanistique, prédire à partir du climat la probabilité de présence du hêtre. Et donc ça, c'est ce qui est donné par ces degrés de couleur verte sur cette carte. Et on voit que ces modèles peuvent prédire plus ou moins bien, dans ce cas-là plutôt bien, la présence du hêtre à l'heure actuelle en Europe. Alors ces grandes aires de répartition, et c'est ce qu'on appelle des niches climatiques, c'est-à-dire l'ensemble des conditions climatiques qui visiblement permettent actuellement à une espèce de prospérer, cache en fait une grande hétérogénéité d'adaptation au climat local au sein des espèces. Donc en fait, non seulement les différentes espèces sont adaptées à des climats différents, Mais si on regarde plus finement, au sein d'une espèce, et qu'on regarde différentes populations de la même espèce, ici, par exemple, c'est un épicéa de Sitka qui vit en Amérique du Nord, on s'aperçoit que chaque population est en réalité adaptée au climat local qu'elle expérimente. Donc ça, ce que montre cette photographie, c'est des arbres qui ont été, dont les graines ont été prélevées dans différentes populations de, de cet épicéa en Californie, en Colombie-Britannique ou en Alaska, donc qui proviennent de climats très différents. Ici, vous avez les températures moyennes annuelles des sites dont viennent les graines. Ces graines ont été plantées dans un même jardin commun à Vancouver. Tous ces arbres ont poussé exactement dans les mêmes conditions. Ils ont expérimenté le même climat. Donc, ils étaient dans les mêmes conditions environnementales. Et vous voyez toute cette variation phénotypique, notamment en termes de vitesse de croissance, qui est le résultat du fait qu'il existe une variation génétique dans la capacité de croissance de ces arbres. Donc, on a une divergence génétique entre ces arbres qui s'exprime par leur taille et qui s'exprime même quand ces arbres poussent dans le même climat. Et donc, pourquoi est-ce qu'on pense que ces variations de croissance sont des adaptations au climat ? Parce que, notamment, en fait, on observe ça chez cette espèce, mais de manière plus troublante. Quand les forestiers ont fait plein d'expériences comme ça de jardins communs où ils ont fait pousser ensemble des provenances d'arbres qui venaient de localités différentes avec des climats d'origine différents. Et ce qu'on constate, par exemple ici, sur 19 espèces, c'est qu'on observe le même type de variation de la taille, c'est-à-dire de la vitesse de croissance, en fonction de la température d'origine annuelle dans le site où on a prélevé les graines avant de planter ces arbres dans un même jardin commun, et que donc, globalement, les arbres qui viennent de climat froid poussent plus lentement que les arbres qui viennent de climat chaud, et c'est vrai, alors avec des relations qui sont des pentes différentes, mais pour toutes ces espèces. Donc, on peut prédire non seulement où se trouve une espèce en fonction du climat local, mais en fonction du climat local, on peut globalement prédire quels sont les traits qu'on attend chez ces espèces. Et ça, c'est globalement un indicateur fort que c'est la sélection naturelle qui, de manière récurrente, a sélectionné certains traits comme des adaptations au climat. Alors, plus généralement, en fait, Tatiana vient de vous parler des effets entre sélection et migration. Et une des preuves assez claires et qui a été beaucoup discutée de la force de la sélection naturelle dans le monde vivant, c'est l'existence de patrons d'adaptation locale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ces patrons d'adaptation locale ? On a des organismes qui vivent dans des environnements différents, dans des localités différentes, avec des caractéristiques qui peuvent être différentes. Et si on fait des expériences de transplantation, c'est-à-dire qu'on prend, par exemple, des plantes de cet habitat-là, qu'on les plante ici, puis qu'on plante des plantes originaires d'ici dans cette autre localité, on constate en général que en fait, les plantes d'origine locale vont avoir une meilleure survie ou une meilleure reproduction que les plantes qu'on a importées d'un autre site. Donc on a une espèce d'avantage des locaux par rapport aux plantes qui viennent de sites différents. Et ça, c'est ce qu'on attend si effectivement la sélection naturelle localement a favorisé certains caractères qui procurent une adaptation dans ce site, mais pas nécessairement dans d'autres sites où les conditions sont différentes. Donc il y a des méta-analyses de ces expériences de transplantation réciproque qui ont été faites, par exemple chez les plantes, et ces auteurs ont analysé 1000 expériences comme ça de transplantation réciproque, et ils ont trouvé que dans effectivement 71% des cas, les plantes d'origine locale avaient un meilleur succès que les plantes d'origine non locale. Alors ça, c'est un patron qui est assez général, mais on a de plus en plus des indicateurs que le changement climatique perturbe cette adaptation locale. Alors ça, c'est une étude particulière chez cette espèce qui s'appelle Clarkia, qui est une espèce aussi nord-américaine. Et donc, ces auteurs ont fait une expérience de transplantation réciproque un peu similaire à celle dont je vous ai parlé. Ils ont récolté des graines de plantes dans toute la répartition de cette espèce. Et puis, ils ont planté dans un jardin commun particulier. Et puis, ils ont examiné le nombre de descendants de ces plantes. Et là, c'est les prédictions d'un modèle statistique qui prédit combien de descendants en espérance va faire une plante en fonction de deux choses. Donc, l'attendu classique, si effectivement les plantes étaient adaptées localement, était que ben, c'est les plantes locales qui devraient laisser le plus des descendants dans le jardin commun. Et si on peut s'attendre à ce que l'environnement change progressivement quand on s'éloigne de ce site de plantation, on s'attendrait à ce que les plantes les plus proches géographiquement aient les meilleures performances que les plantes qui sont d'origine lointaine géographiquement. Donc l'origine géographique, en distance, elle est donnée par cette teinte de rose et bleu, et on voit que ça prédit pas tellement le succès des plantes dans le jardin commun. Et par ailleurs, que ben, les plantes locales, qui sont les plantes, les couleurs bleues, là, elles n'ont pas du tout le meilleur succès de reproduction dans cette expérience, de manière, je pense, ça a surpris ces auteurs. Et en fait, quand ils ont cherché à comprendre quelles étaient les plantes qui avaient eu le meilleur succès, ils se sont rendus compte que l'année où ils avaient fait leur expérience, c'était une année particulièrement chaude, avec une anomalie climatique comme on en voit de plus en plus, et que les plantes qui avaient eu le meilleur succès dans cette expérience, c'était les plantes dont le climat d'origine était le plus semblable avec le climat l'année où ils ont fait l'expérience. Et donc, en fait, ce qui explique essentiellement la performance des plantes, c'est la différence de température entre le climat actuel et le climat historique d'origine. Et c'est plus le climat, c'est plus nécessairement le climat historique du site en question. Donc ça, c'est, ça suggère que effectivement, le changement climatique en modifiant les conditions localement dans les sites fait que les génotypes qui se retrouvent dans ces, enfin les plantes d'origine ou les génotypes qui sont localement ne sont plus les meilleurs et que potentiellement on a une perturbation des patrons d'adaptation locale. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladaptation potentielle, puisque les adaptations que la sélection naturelle a favorisées ne correspondent plus au climat qu'expérimentent les populations avec le changement climatique. Alors, un exercice que beaucoup de scientifiques auquel beaucoup de scientifiques ont participé depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quelles seraient les conséquences de changement climatique pour la répartition des espèces. Alors, l'idée est simple. Actuellement, on regarde où est une espèce, comment elle est distribuée dans l'espace géographique. On regarde quel est le climat dans ces localités. Ça nous permet de définir une niche climatique, c'est-à-dire l'ensemble des conditions climatiques qui permettent actuellement à l'espèce de prospérer. Et on utilise des simulations du climat futur, spatialisées, pour essayer de trouver où est le climat, où se trouvera ce climat favorable à l'espèce dans l'avenir. Donc juste pour vous donner l'illustration de ça avec le hêtre, donc je reprends le même exemple que tout à l'heure. Donc voilà la répartition actuelle du hêtre, voilà ce qu'on arrive à prédire de sa niche climatique sur la base de cette répartition actuelle. Donc ça, c'est basé sur les données climatiques un peu historiques des 30 dernières, à l'époque des années 70 aux années 2000. Et on projette des simulations, grâce à des simulations du climat, le changement du climat prédit à la fin du siècle. Et on suppose qu'il y a la même relation entre le caractère favorable du climat à cette époque que dans le futur. Et du coup, on peut indiquer, de même avec ces dégradés de vert, quelle zone serait le plus favorable au hêtre dans le futur en Europe. Donc ça, c'est important de réaliser que ça, c'est une simulation du changement du climat. On ne simule pas ce que font vraiment les espèces. On simule comment change le climat, quand on change la distribution du climat qu'on estime être le climat favorable pour l'espèce dans l'avenir. Donc à partir de ça, on peut faire différentes hypothèses. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des zones où l'espèce est présente aujourd'hui et le climat est devenu deviendrait défavorable dans l'avenir, et d'autres endroits où l'espèce est absente aujourd'hui, mais le climat est prédit devenir favorable dans l'avenir. Et donc la question ensuite, c'est qu'est-ce que vont faire effectivement les êtres confrontés à ces déplacements de leur niche climatique dans l'espace? Est-ce qu'ils vont s'éteindre? Donc un scénario possible, c'est qu'ils s'éteignent dans les zones où le climat est devenu défavorable et qu'ils colonisent les zones où il n'était pas présent et qui sont devenues favorables. Alors c'est souvent le raccourci qui est fait. Donc ces scénarios qui projettent essentiellement la distribution de la niche climatique actuelle dans le futur ont été beaucoup utilisés, notamment pour essayer d'anticiper la gestion de ces populations d'arbres. Donc, notamment si vous êtes forestier, vous devez prévoir qu'est-ce que votre gestion et vos plantations très longtemps en avance, puisque vous allez récolter potentiellement vos plantations 100 ans après avoir planté des arbres. Donc, c'est une communauté qui a pris très au sérieux ses prédictions sur les changements de distribution potentielle des espèces et du changement climatique, parce qu'ils sont dans la nécessité absolue d'anticiper. Et donc, ce genre de scénario et de modélisation a été utilisé beaucoup, notamment pour dire, si le hêtre va disparaître une grande partie de l'Europe occidentale, où c'est l'espèce dominante à l'heure actuelle, ça veut dire qu'il ne faut pas continuer une gestion des forêts en supposant que le hêtre va continuer à rester dans ces sites, donc pas planter du hêtre. Notamment, il faut prendre ces prédictions climatiques pour planter d'autres espèces, comme par exemple le sapin de Douglas, avec des conséquences majeures sur les écosystèmes, car une forêt de feuillus, une forêt de conifères, ce n'est pas du tout la même chose. Alors ça, c'est une vision des choses. Et cette vision des choses est débattue parce qu'il existe d'autres scientifiques qui, par exemple, étudient la génétique de l'adaptation au climat chez les arbres et qui défendent d'autres scénarios. Notamment, les arguments sont que, en fait, les hêtres sont des populations où il y a une énorme variabilité génétique pour l'adaptation au climat. Donc, Tatiana vous a expliqué comme quoi cette diversité génétique, c'est vraiment le fuel ou l'essence qui remplit le moteur de l'évolution, donc qui permet de faire évoluer les traits. Et par ailleurs, on voit plein de preuves d'adaptation au climat local ou d'adaptation au climat dans l'histoire évolutive des êtres, ce qui peut justifier le fait qu'on puisse avoir une hypothèse alternative, que peut-être que les êtres ne vont pas s'éteindre dans ces zones où le climat devient défavorable, mais vont s'adapter à ces conditions qu'ils ne rencontrent pas dans leur niche actuelle. Et par ailleurs, d'autres scientifiques peuvent dire que les données sur la dispersion du hêtre, et notamment la vitesse de recolonisation post-glaciation au cours du quaternaire, suggèrent que leurs capacités de dispersion ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse espérer qu'en tout cas à court terme, les zones qui deviennent favorables vont être colonisées. Donc il y a des scénarios alternatifs, et c'est une question importante d'être capable de peser ces scénarios alternatifs, parce que, comme je vous l'ai expliqué, potentiellement on va prendre des décisions de gestion maintenant qui risquent d'être des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire que si on croit certains modèles, on va prendre des décisions qui auront des conséquences. Donc par exemple, si on pense que le hêtre n'a plus d'avenir dans certaines régions et qu'on arrête de planter du hêtre, le hêtre va disparaître de ces régions, mais on ne saura potentiellement jamais s'il avait la capacité de s'adapter ou pas, parce qu'on aura pris une décision qui aura un impact radical là-dessus. Inversement, si on est trop optimiste et qu'on continue à investir dans des écosystèmes ou dans des types d'habitats qui n'ont plus d'avenir dans certains endroits, on risque effectivement aussi d'avoir des problèmes. Donc il y a la nécessité d'anticiper sur le changement climatique, mais aussi de prendre en compte toutes les incertitudes qui y sont liées. Et donc, mon argument global dans cet exposé, c'est d'essayer de vous expliquer comment l'évolution est une source potentiellement d'incertitude quant à ces scénarios sur lesquels il faut essayer de réfléchir et de quantifier les choses et de comprendre les choses pour prendre des décisions les plus informées possibles. Alors, en soutien avec ce scénario d'extinction dans la marge chaude de l'aire de répartition et colonisation de la marge froide de la répartition liée au changement climatique, effectivement, actuellement, on observe déjà le déplacement de la distribution de nombreuses espèces. Alors ça, c'est par exemple c'est une méta-analyse faite par Chen et al., ses collaborateurs, qui date déjà de 2011. Et ce qu'on vous avait conclu, c'était que en reviewant un très grand nombre d'études de cas sur une très grande diversité d'espèces, observer qu'en moyenne, les espèces s'étaient déplacées de 17 km en 10 ans de manière cohérente avec les attentes liées au changement climatique. Donc, depuis, on a des revues plus récentes qui ont été refaites, des jeux de données qui documentent des changements de distribution d'espèces à la fois animales et végétales, marines et terrestres, qui affine un petit peu ce résultat en montrant qu'en fait il y a une grande hétérogénéité entre les vitesses de déplacement dans le monde marin et dans le monde terrestre, et qu'il y a des vitesses beaucoup plus fortes en fait de déplacement des espèces dans le monde marin, qui est cohérente avec le changement climatique, et des vitesses de déplacement finalement assez modérées dans le monde terrestre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si on regarde les études de Chen et al., on voit que non seulement les espèces en moyenne se déplacent, mais plus précisément, en fait, ce qui est un prédicteur fort de la vitesse de déplacement des espèces, c'est à quel point localement ces espèces sont confrontées à un changement climatique rapide ou pas. Ce que je vous ai dit au départ, le changement climatique, il est hétérogène en fonction des localités du globe, il est aussi hétérogène en fonction de la manière dont il est vécu par les espèces, parce que les espèces n'ont pas la même niche climatique, donc leur climat favorable ne se déplace pas à la même vitesse. Et donc je vais vous montrer plusieurs figures comme ça, qui montrent la vitesse de déplacement du climat, la vitesse de déplacement des espèces, et on voit que globalement, on a une corrélation assez forte. Donc la ligne bleue, là, c'est ce qui se passerait si les espèces se déplaçaient exactement aussi vite que le climat change. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a aussi des données comme ça dans le passé, parce que l'histoire de la Terre a connu de nombreux changements climatiques, notamment son histoire récente au cours de Quaternaire, a connu une grande période d'instabilité climatique, avant de rentrer dans une période de forte stabilité climatique, qui est celle qui a modelé la biodiversité telle qu'on la connaît actuellement sur Terre. Et dans les périodes de changements climatiques rapides, quand on peut aussi avoir une idée du changement de la distribution des espèces, grâce à des fossiles, et notamment grâce à la présence de pollen dans des carottes sédimentaires qu'on prélève dans différents endroits. Et comme ça, on peut identifier les espèces végétales qui étaient à différents endroits, et on peut documenter des changements de distribution d'espèces d'arbres, ce qui est fait dans cette étude. Et ce que ces auteurs ont trouvé, c'est que qu'on regarde la position de la marge nord ou la marge sud, donc d'espèces d'arbres, encore une fois, nord-américaines, on a aussi une relation très bonne entre la vitesse de déplacement des espèces et le déplacement du climat. Alors ici, c'est en 10 ans, en nombre de kilomètres. Alors, à la différence du changement climatique contemporain, il y a un ordre de grandeur de différence dans les vitesses de déplacement par rapport à ce qu'on vit à l'heure actuelle. Mais sinon, comme précédemment, on trouve les espèces qui sont confrontées ou les populations qui sont confrontées à un déplacement du climat rapide sont celles qui se déplacent le plus vite. Mais il y a deux autres caractéristiques intéressantes de cette étude. L'une, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est retrouvé par un certain nombre d'études, la vitesse de déplacement de la marge nord, donc la colonisation dans les périodes de réchauffement, la colonisation de zones qui étaient froides et non colonisables et qui deviennent favorables, est beaucoup plus rapide que la vitesse de déplacement de la marge sud qui serait liée à des extinctions locales dans des zones où l'espèce était déjà présente et où le climat deviendrait trop chaud. Donc ça, c'est une première conclusion. Et une deuxième conclusion que je trouve intéressante, en particulier si on regarde ce qui se passe à la marge sud, c'est que donc, cette ligne bleue là que je vous ai indiquée, c'est ce qui se passerait si les espèces se déplaçaient exactement aussi vite que le climat. Or, on voit qu'il y a des espèces qui se déplacent, mais qui se déplacent moins vite que le climat ne change. Et de manière peut-être encore moins intuitive, il y a des espèces qui se déplacent plus vite que ce qu'on prédirait sur la base du changement climatique, dans ces circonstances où le climat change et où les distributions changent. Donc on va revenir là-dessus, on va voir si les modèles nous aident à comprendre un peu cette variabilité dans les vitesses de déplacement, et notamment ce caractéristique un petit peu surprenante d'espèces qui se déplacent plus vite que le climat. Alors, le fait que les marges sud se déplacent moins vite que les marges nord, et le fait qu'on ait des espèces qui se déplacent moins vite que le climat, ça, typiquement, ça a pour effet de générer ce qu'on appelle dans la discussion de la littérature sur ce sujet une dette climatique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dette climatique? Ici, on imagine un scénario, on avait la distribution de l'espèce qui était dans le climat qui lui était favorable. Le climat a changé. Maintenant, l'espace géographique où on trouve ce climat favorable, ça correspond à cette zone verte. Donc cette zone verte commence à être colonisée par l'espèce, mais typiquement ce qu'on observe, c'est une forte persistance de l'espèce dans une zone qui, a priori, est devenue climatiquement défavorable. Alors cette persistance, donc c'est ça qu'on appelle une dette climatique, c'est qu'on s'attendrait à ce que ça disparaisse ici, puis c'est toujours là. Alors il y a deux types d'interprétations qui, de manière assez amusante, sont assez différentes en fonction du fait que On parle du changement climatique contemporain ou dans la littérature qui s'intéresse au changement climatique passé. On peut considérer que cette persistance dans les zones où le climat est devenu défavorable, c'est en fait juste des extinctions en sursis. C'est des espèces de populations zombies, c'est-à-dire on les voit encore, mais en fait elles n'ont plus d'avenir évolutif. Donc ça, par exemple, il y a des indications de ça, par exemple, chez les arbres, quand on trouve des populations, on a encore des arbres adultes qui se sont installés dans ces populations il y a 100 ans, quand le climat était favorable, on n'a plus du tout de jeunes arbres, plus du tout de recrutement, plus du tout de reproduction dans ces populations. Donc en fait, on voit encore des arbres dans ces endroits, mais potentiellement, ces arbres, une fois qu'ils seront morts, il n'y aura plus de nouveau une régénération de ces espèces à ces endroits. Donc ça, c'est potentiellement des extinctions en sursis. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce patron le terme de dette climatique suggère cette idée d'extinction en sursis. Et dans les données palynologiques ou globalement paléontologiques, en fait, lors des changements climatiques de la Terre qu'on peut suivre, ce scénario est très commun d'expansion dans les zones favorables nouvelles, mais d'absence de disparition ou de disparition beaucoup plus modérée dans les zones qu'on pourrait penser être devenues trop chaudes et en tout cas n'étaient pas présentes dans la niche climatique précédemment. Et un des arguments, alors il y a plusieurs types d'explications pour ça. L'une pourrait être qu'on comprend mal, en fait, on évalue mal les limites thermiques chaudes des espèces, parce que par exemple, ce qui les limite dans leur marge sud, ce n'est pas tellement le climat, c'est les interactions avec d'autres espèces, il y a d'autres facteurs qui les empêchent d'être dans certains endroits qui n'est pas le climat. Ou, en fait, l'existence d'une variabilité génétique qui permet de s'adapter à ces climats chauds et qui n'était pas révélée dans la gamme de climats qui était proposée à une période. Et donc, en fait, dans la littérature sur le passé, l'idée qu'on ait des phénomènes d'adaptation à des climats plus chauds est beaucoup plus souvent discutée comme une explication potentielle du fait que les espèces restent dans ces marges chaudes plus longtemps qu'on ne peut le penser. Alors, je voulais vous parler d'un exemple particulier. Alors, on peut dire, bon, c'est peut-être ce qui s'est passé dans ces climats passés, qui étaient quand même beaucoup moins rapides que le changement climatique contemporain. Et en fait, voilà, Tatiana vous a expliqué, l'évolution, c'est un phénomène lent, progressif. Donc, un argument que les gens ont beaucoup utilisé pour dire que ces phénomènes d'adaptation ne sont pas pertinents pour comprendre l'impact des changements climatiques actuels, c'est que là, on est confronté à quelque chose de très, très rapide et que l'évolution, c'est quelque chose de très lent. Alors, de manière assez intéressante, les changements globaux ont été aussi l'occasion de voir que l'évolution n'est pas forcément lente. Il y a plein de cas d'évolution rapide et contemporaine auxquels l'homme est témoin, en fait, au jour le jour. Et ça ne concerne pas simplement des bactéries dans des tubes à essai ou des organismes avec un temps de génération très, très court. Ça concerne aussi des organismes comme les éléphants, dont Tatiana vous a parlé, qui sont des organismes dont les générations sont plutôt longues. Donc là, je voulais parler d'un exemple particulier qui est interprété comme un exemple d'évolution contemporaine rapide en réponse au changement climatique, qui suggère que les espèces peuvent s'adapter à un réchauffement du climat. Alors, il s'agit d'une espèce de moutarde sauvage où des études ont montré que, en fait, visiblement, dans les années récentes, les plantes portant des gènes qui permettent une floraison précoce augmentent en fréquence, sont devenues plus fréquentes que dans le passé. Alors, c'est assez intéressant de comprendre comment est-ce que cette étude a mis ça en évidence, parce que ce n'est pas facile de montrer de l'évolution contemporaine en réalité. Alors, ils ont utilisé une approche qu'on appelle des expériences d'écologie de la résurrection, dont Tatiana vous a aussi un peu parlé avec les Daphnies, et qui profite du fait que certaines formes vivantes ont des stades de vie qui survivent pendant très longtemps, et donc qui permet, donc des graines ou des spores, qui permet en fait de faire pousser ensemble des plantes du passé et du présent. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cette expérience ? Donc, Brassica rapa, la moutarde sauvage, c'est une espèce qui a été introduite aux États-Unis il y a à peu près 300 ans. Et on en trouve en Californie. Et un peu par hasard, je pense, il y avait dans certaines populations naturelles des graines qui avaient été prélevées après une série d'années particulièrement humides. Donc, ici, ce que vous avez, c'est des anomalies de précipitation. pour différentes années. Donc les barres bleues, c'est quand on a eu un excès de précipitation. Les barres jaunes, c'est quand on a eu un déficit de précipitation. Et donc en gros, l'histoire récente du climat dans ces populations, c'est qu'on a eu une période plutôt humide. Et ensuite, des différents épisodes de sécheresse très sévères qui se sont succédés avec des intermèdes un peu plus humides entre ces périodes de sécheresse, mais vraiment une augmentation de la fréquence des sécheresses au cours du temps. Et donc, il se trouve que de manière un peu fortuite, en 97, il y avait des graines qui avaient été prélevées dans ces populations. Et à plusieurs moments dans le temps, mais je vous ai juste montré cet échantillonnage-là, en fait, ils sont revenus dans ces populations et ils ont aussi échantillonné les graines. Donc, cette fois-ci, après plusieurs épisodes de sécheresse. Donc, ils ont ramené ces graines au laboratoire, ils les ont stockées dans des frigidaires, dans des conditions de conservation plutôt bonnes. Et ensuite, ils ont semé ensemble ces graines dans un jardin commun, et puis ils ont croisé ces plantes du passé et du présent ensemble pour justement déterminer qu'est-ce qui était génétique, qui n'était pas. Ils ont fait une génération en plus dans le jardin commun. Et après, ils ont mesuré les dates de floraison de ces plantes dans ce jardin commun, donc encore une fois, des plantes du passé et du présent, mais qui sont dans les mêmes conditions environnementales aujourd'hui. Donc les différences entre ces plantes ne peuvent pas être expliquées par des différents environnements que ces plantes ont vécu, mais par le fait qu'elles ont hérité de gènes qui ont été sélectionnés dans des environnements différents. Et donc ce que ces auteurs ont constaté, c'est que les plantes issues de graines récoltées après plusieurs années de sécheresse, donc les plantes contemporaines, fleurissent 3 jours plus tôt que les plantes du passé. Alors l'idée, c'est que, effectivement, en période de sécheresse, la sélection naturelle favorise les plantes les plus précoces, parce que la sécheresse arrive tôt en cours de saison, et donc les plantes qui n'ont fleuri tard et qui n'ont pas le temps de maturer leurs graines avant l'arrivée de la sécheresse. Donc seules les plantes précoces, on arrive à boucler leur cycle de vie avant l'arrivée de la sécheresse. Et donc si on a une certaine distribution de la taille de la date de floraison dans la population, toutes les plantes tardives ne vont pas laisser descendre. Et donc pour observer une telle évolution rapide, il faut d'une part que effectivement les individus précoces et tardifs aient un succès différent, ce qui a été effectivement mesuré. Il faut que les dates de floraison soient très variables entre les individus. Et il faut que cette différence de date de floraison soit héritable, soit transmise aux descendants, ce que vous a expliqué aussi Tatiana. Et donc, après plusieurs épisodes de sécheresse, si ces trois conditions sont respectées, on peut effectivement avoir une distribution des dates de floraison dans la population qui est radicalement différente de celle dont on est parti, même en peu de générations. Alors, cet exemple a été discuté dans la littérature, donc un avancé de 3 jours en 17 ans comme un cas d'évolution rapide, mais c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on qualifie comme rapide ou pas en ce cas-là. Donc c'est rapide en comparaison, par exemple, au taux d'évolution de traits morphologiques dans les données fossiles, qui sont estimées sur des grands pas de temps, mais on sait qu'il y a toujours un biais, c'est-à-dire que si on regarde la vitesse de l'évolution sur un pas de temps court, on estime une évolution légèrement plus rapide que si on regarde des grandes périodes de temps où le trait il peut augmenter, diminuer, etc. Également, en fait, ce qui est un consensus de plus en plus fort, c'est que les effets de l'homme sur la biodiversité sont une cause d'évolution rapide pour plein d'exemples. Donc ça, c'est une revue très récente qui vous montre les vitesses d'évolution pour tout un ensemble d'études et de traits en fonction du fait que on s'agisse d'écosystèmes soit naturels, pas trop, dont on pense qu'ils ne sont pas modifiés par les hommes, ce qui est un peu compliqué à l'heure actuelle de toute façon. Des études où on pense que les causes du changement évolutif, c'est le changement climatique, des cas où il y a des changements de paysage, des introductions d'espèces, l'exploitation des espèces, des réponses à l'introduction d'autres espèces ou de la pollution. Et on voit qu'en fait, on a plein d'exemples d'évolution encore plus rapides que les évolutions liées au changement climatique. Donc les cas qu'on a d'évolution en réponse au changement climatique ne sont pas parmi ceux de cas d'évolution contemporaine les plus rapides, mais globalement, en fait, on a des signaux d'évolution sur des patterns assez courts pour plein d'exemples. En fait, ce à quoi je voulais arriver, c'est que rapide ne suffit pas comme qualificatif pour comprendre si l'évolution va être suffisante pour empêcher l'extinction ou pas. Et pour ça, c'est là où on a besoin de formaliser les choses, par des modèles mathématiques pour comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, quelle vitesse d'évolution est suffisamment rapide pour échapper à l'extinction. Alors pour ça, je vais venir à un modèle qui a été proposé dans les années 90 par Lynch et collaborateurs, et puis après il y a toute une série de modèles dans les années 90 qui sont inspirés de celui-ci, donc si vous êtes intéressé, il y en a pas mal, et qui permet de formaliser les choses et en imaginant un scénario particulier pour comprendre un petit peu quelles sont les contraintes sur l'évolution dans le cadre particulier de l'évolution de la niche climatique. Donc l'idée, c'est qu'on imagine un trait, comme par exemple la date de floraison, qui affecte le nombre de descendants que laisse un individu. Et on va imaginer qu'il y a une relation entre cette date de floraison et le nombre de descendants que laisse un individu en espérance, qui est par exemple cette forme-là, quadratique. Donc il y a une date de floraison optimale qui maximise le nombre de descendants. Et si on s'écarte de cette date de floraison optimale, si on est trop tardif ou trop précoce, ben on laisse moins de descendants. Mais si on n'est pas trop loin de l'optimum, malgré tout, on laisse plus de descendants que nécessaire pour se remplacer soi-même. Et donc une population composée d'individus avec cette date de floraison-là serait en croissance démographique, elle augmenterait en nombre au cours du temps. Alors que si on s'écarte trop de cette date optimale, en fait, on ne laisse pas assez de descendants en espérance pour se remplacer soi-même. Et donc une population composée d'individus qui serait aussi mal adaptée serait en déclin et s'éteindrait à long terme si jamais si rien d'autre ne se passe. La manière dont on imagine l'effet du changement climatique sur ce paysage de sélection, c'est qu'on imagine qu'à fur et à mesure que le climat se réchauffe, ben en fait, la date optimale de floraison avance, ce qui est cohérent, par exemple, avec ce que je vous ai raconté à propos de la moutarde sauvage. Et donc, on imagine que plus il fait chaud, plus il faut avancer sa date de floraison, et donc que les paysages de sélection ne changent pas, à part pour la position de leur optimum. Alors, ce modèle simple, il a déjà un certain nombre de caractéristiques qui sont importantes à comprendre. La première, c'est que, bon, donc ce qu'on peut supposer, c'est qu'au départ, on avait cet environnement bleu-là, qui est l'environnement historique, auquel on s'était adapté. Et du coup, on peut s'attendre à ce que la distribution des dates de floraison soit centrée autour de cette date optimale dans cet environnement historique. Si le réchauffement est modéré et que maintenant, cette population se retrouve confrontée à ce climat représenté ici en rose, où le succès des individus est différent. Cette population-là, cette distribution-là, du coup, en moyenne, la date de floraison des individus, elle est toujours ici, et ils vont avoir un nombre de descendants plus petit en moyenne que celle qu'ils avaient dans l'environnement historique ancestral. Donc, ce qui est important pour... et donc, ils sont à une certaine distance de l'optimum dans le nouvel habitat. Ce que Tatiana vous a expliqué ce matin, ce qui est important pour comprendre la vitesse de l'évolution, c'est de comprendre à quel point il y a des différences de succès de reproduction entre des individus. Donc là, on va avoir une sélection pour devenir plus précoce, puisqu'on voit bien que les individus qui sont plus précoces ont une meilleure valeur sélective, un plus grand nombre de descendants que les individus qui sont plus tardifs. Mais la vitesse de l'évolution dépend de la différence qu'il existe entre le succès des précoces et des tardifs. Si les précoces sont un petit peu mieux que les tardifs, mais ne font pas beaucoup plus de descendants, l'évolution va être plus lente. Si les précoces ont un succès beaucoup plus grand que les tardifs, l'évolution va être plus rapide. Ça, c'est assez intuitif. Et graphiquement, en fait, on peut avoir une idée de ça. Cette différence de succès entre les précoces et les tardifs, elle est donnée par la pente notre paysage de sélection ici autour de la moyenne de la population. Donc si on n'est pas très loin de l'optimum dans le nouvel habitat, cette pente n'est pas très grande. Et donc on n'a pas une très très grande différence de succès entre les précoces et tardifs. La force de la sélection qui pousse la population à évoluer vite est assez faible. Inversement, si on imagine un réchauffement intense, donc cette fois-ci, on a ce paysage rouge, là, où il fait beaucoup plus chaud et donc la date optimale est beaucoup plus précoce. Ben, la population, si elle n'évolue pas, la pente du paysage de sélection, elle est beaucoup plus grande quand on s'éloigne de l'optimum. Et donc ici, on a une force de la sélection qui est beaucoup plus forte, qui va faire évoluer la population beaucoup plus vite. Donc, une propriété importante de ces modèles, c'est que la force de la sélection augmente avec la maladaptation. Plus une population est mal adaptée, plus elle va évoluer vite. Alors, ça, c'est potentiellement positif, mais par contre, le problème, c'est que cette population-là, elle n'est pas très mal adaptée, elle va évoluer lentement, mais même si elle n'évolue pas, elle est un peu moins, elle est un peu, son nombre de descendants est plus faible que celui qu'elle avait si elle était l'optimum, mais elle peut quand même, les individus se remplacent eux-mêmes, ils produisent assez de descendants pour se remplacer. Donc en fait, la population continue à croître, donc elle n'est pas en danger d'un point de vue démographique. Par contre, cette population, qui est très mal adaptée, l'écart entre la moyenne de la population et l'optimum est suffisamment grand pour que si la population n'évolue pas, on voit que son taux d'accroissement est négatif. Donc la population, si elle n'évolue pas, elle est condamnée, elle va décliner. Donc seule l'évolution peut sauver cette population. Alors que ici, l'évolution est lente, mais elle n'a pas vraiment d'effet sur la persistance ou l'extinction de la population. Alors qu'est-ce qui se passe quand la population évolue effectivement dans ce scénario ? Alors, on peut regarder, imaginer un scénario où on a la date de floraison, donc la date de floraison optimale qui est représentée par ces grosses fleurs jaunes. Au cours du temps, on imagine qu'on a un réchauffement progressif et régulier, et du coup, chaque génération, la date optimale de floraison est toujours un petit peu plus tôt. Donc initialement, on a un faible décalage, on est plutôt bien adapté à notre environnement qui est juste devenu un petit peu plus chaud. Et comme on a un faible décalage entre la moyenne de la date de floraison de la population et la date de floraison optimale, la force de la sélection est très faible. Et donc la population n'évolue pas vite du tout, voire même elle n'évolue pas. Donc comme elle n'évolue pas, le décalage, donc elle ne bouge pas, mais que le climat, lui, continue à changer, le décalage augmente entre la date de la moyenne de floraison dans la population et la date de floraison optimale. Donc on a de plus en plus de maladaptation. Quand on a de plus en plus de maladaptation, la force de la sélection augmente. On commence à avoir une force de rappel qui fait évoluer la population plus vite. Donc l'évolution est plus rapide. Et l'évolution augmente en vitesse jusqu'à ce que la population évolue exactement aussi vite que le climat ne change. Et là, il se passe une chose intéressante, qui est que la population évolue à la même vitesse que le climat ne change, mais elle ne rattrape jamais son retard. Donc elle évolue aussi vite que le climat, mais elle conserve de manière permanente un retard, c'est-à-dire qu'elle court après le climat, mais elle n'arrive jamais à rattraper, à combler ce retard, si le climat continue à changer. Alors pourquoi ça se produit, ça ? C'est important de revenir un petit peu... Donc en fait, l'idée, c'est que la population évolue, elle évolue extrêmement vite, si elle cesse d'évoluer, elle s'éteint. Donc, une des illustrations possibles du pays de la Reine Rouge de Lewis Carroll, où il faut courir pour juste rester sur place. Alors, si on revient à pourquoi est-ce qu'on a ce retard constant qu'on n'arrive jamais à combler, qui est prédit par ce modèle, on voit qu'on atteint un équilibre quand la vitesse de l'évolution est exactement égale à la vitesse du changement climatique. Alors, cette vitesse de l'évolution, on en a déjà parlé aujourd'hui et puis dans le cours de Tatiana. On voit que cette vitesse de l'évolution, en fait, elle est prédite par deux choses. La quantité de diversité génétique qu'on a pour le trait qui doit évoluer, multipliée par la force de la sélection qui est liée au différentiel de succès entre les individus, par exemple, dans notre cas, précoces et tardifs. Et donc, c'est ces deux facteurs qui déterminent la vitesse de l'évolution, sous des hypothèses assez simples. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette force de la sélection, on a vu qu'elle augmentait quand le retard évolutif était plus grand. Donc, si on a un retard évolutif plus grand, qui augmente, parce qu'on est plus décalé par rapport à la date optimale, la force de la sélection va être plus forte, donc la vitesse d'évolution va augmenter. Si la vitesse d'évolution augmente et devient supérieure à la vitesse du changement climatique, à ce moment-là, la population commence à combler son retard. Donc elle évolue plus vite que le changement climatique, elle rattrape son retard, et du coup, le retard évolutif diminue. Mais comme le retard évolutif diminue, la force de la sélection baisse. Et donc, en fait, on est coincé dans cet équilibre dynamique où le seul point d'équilibre, c'est effectivement le retard évolutif qui permet tout juste d'atteindre une vitesse d'évolution qui est égale à la vitesse du changement climatique. Alors ça a deux conséquences. C'est qu'on peut très bien arriver à un équilibre comme ça avec un retard évolutif qui est trop grand et qui ne permet pas la croissance de la population. C'est-à-dire que vous voyez que dans ce scénario-là, l'aspect démographique n'intervient pas. Donc ça illustre un petit peu aussi ce que vous disiez, Tatiana. C'est-à-dire que l'évolution peut empêcher l'extinction, mais là, on peut avoir une évolution qui n'empêche pas l'extinction. C'est-à-dire qu'on arrive à un équilibre évolutif. En fait, le retard évolutif est trop grand pour permettre à la population de survivre. Donc en fait, la démographie n'intervient pas dans ce schéma de rappel de la sélection. Et une autre conséquence de ça, c'est qu'on voit que, comme les vitesses d'évolution sont directement liées à la taille du retard évolutif, en fait, il y a des vitesses d'évolution qui sont trop grandes pour pouvoir être soutenables d'un point de vue démographique. Donc, on peut pas, cette vitesse d'évolution ne peut pas augmenter indéfiniment à cause de son coût démographique. Alors, une conclusion de ces modèles, c'est aussi de dire que du coup, l'évolution génétique n'empêche pas nécessairement l'extinction et que les situations où l'évolution permet d'avoir un retard adaptatif petit ou inversement, les situations où le retard adaptatif va être grand, ça va se produire quand le climat change vite par rapport à la vitesse de remplacement des générations, quand il y a peu de diversité génétique et quand la sélection est faible. Et donc, par exemple, effectivement, ça c'est intéressant pour essayer de comprendre en quoi les défis de l'adaptation sont différents chez une plante annuelle comme la moutarde, où les générations durent un an, de défis adaptatifs pour un être où le remplacement de génération il a lieu au bout de plus de 50 ans, voire 100 ans. Parce que en fait, la vitesse de changement du climat, elle ne compte pas dans l'absolu en termes de temps, elle compte en termes d'unités par génération. Et du coup, là, le climat il va changer beaucoup au cours de la vie d'un individu. On peut aussi voir que ça amène à réfléchir à quel point la diversité génétique est essentielle pour comprendre la survie des populations dans ce genre de scénario. C'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser ces modèles pour prédire quelle diversité génétique est nécessaire pour échapper à l'extinction. Et on voit que cette diversité génétique nécessaire pour échapper à l'extinction, elle dépend de la fécondité, c'est-à-dire que si les individus produisent beaucoup de descendants, en fait, potentiellement, ils ont moins de contraintes, donc même avec une diversité génétique faible, on arrive à échapper à l'extinction. Par contre, si on produit un faible nombre de descendants, en fait, il y a plein de cas où la diversité génétique nécessaire pour échapper à l'extinction, elle est juste très très grande. Et que cette diversité génétique nécessaire pour échapper à l'extinction, elle augmente aussi avec la vitesse du changement environnemental. Si le changement environnemental est lent, en fait, on a besoin de moins de diversité génétique. Par contre, si le changement environnemental est très rapide, on a besoin de beaucoup de diversité génétique pour échapper à l'extinction. Alors, on voit que ces modèles assez simples prédisent, enfin, pour prédire le résultat de cette course entre adaptation et évolution, il faut comprendre comment la sélection change avec le climat. Donc là, on a vu que ces modèles font une sorte d'abstraction de ces paysages de sélection, mais en fait, ils sont cruciaux pour comprendre effectivement à quelle vitesse le climat change. Ce n'est pas simplement la température. Ce qui est important, c'est de savoir à quelle vitesse cet optimum change au cours du temps. Et puis, il est vraiment important de savoir aussi quelle est la forme et la largeur de ces fonctions de sélection, parce que c'est elles qui déterminent ce qui se passe quand on est loin de l'optimum et très mal adapté. Donc, on peut mesurer ça dans les populations naturelles, en mesurer le succès de reproduction, par exemple, associé à différentes dates de floraison, mais c'est très difficile de faire ça sur beaucoup d'espèces, dans beaucoup de sites, sur des périodes longues, et c'est impossible de faire ça pour des climats futurs, à moins d'avoir affaire à des simulacres de climats futurs, par exemple en réchauffant ou en déplaçant des populations dans des climats plus chauds. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé que, comme une alternative complémentaire, on pouvait essayer d'avoir une compréhension de comment est-ce que le changement climatique affecte ces paysages de sélection grâce à des modèles écophysiologiques qui permettent de prédire la sélection à l'aide de modèles. Alors, c'est un travail qu'on a fait, notamment qui était le travail de Julie Gauzère. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un modèle qui sert normalement à prédire les distributions d'arbres à partir de leurs traits de réponse au climat. C'est un modèle qui s'appelle Phénophyte. Ce modèle, ce qu'il prend comme entrée, c'est les données climatiques journalières et puis un certain nombre de paramètres qui décrivent comment différentes espèces répondent à la température ou au cumul des températures en termes de leur physiologie et de leur développement et de leur cycle de vie. Et donc ce modèle, ce qu'il prédit, c'est à la fois des dates d'événements majeurs dans le cycle de vie des arbres, par exemple à quelle date les bourgeons s'ouvrent pour libérer les feuilles au printemps, à quelle date les plantes fleurissent et à quelle date leurs fruits sont mûrs, et des traits de résistance au froid, de résistance des organes au gel en particulier, qui sont liés au climat que les plantes ont vécu avant. Et à partir de ces caractéristiques de temporalité des événements qui règlent la reproduction essentiellement et de traits de survie, on prédit le succès de reproduction d'un arbre. Et donc ce qu'on a fait dans cet exercice particulier, c'est plutôt que simplement prédire le succès de reproduction en fonction du climat local, on a joué un peu avec les réponses physiologiques de l'espèce en les modifiant pour produire des dates de feuillaison légèrement différentes de celles que ont les plantes actuellement dans ces localités, pour comprendre comment des dates de feuillaison différentes affectaient le succès de reproduction de ces plantes dans des climats actuels et futurs. Et donc sur le hêtre, par exemple, voilà ce qu'on obtient. Ici, vous avez le succès de reproduction prédit par le modèle en fonction de la date de feuillaison à différentes altitudes, donc le long d'un gradient d'altitude dans les Pyrénées, pour le climat historique correspondant à celui du XXe siècle, ou la seconde moitié du XXe siècle, et pour des climats futurs, en fonction de différents scénarios de réchauffement climatique. Donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les dates optimales changent avec l'altitude et essentiellement avec la température qui varie le long de ces gradients d'altitude, ce qui était un peu attendu, parce que c'est effectivement ce que les arbres font. Donc on s'aperçoit aussi que les dates de feuillaison des hêtres, dans cet exemple-là, sont très très proches des dates optimales qu'on prédit, et pourtant on n'a pas du tout utilisé cette information sur les dates de feuillaison des arbres pour prédire quelle serait la date optimale, donc c'est des prédictions indépendantes. Et on a d'autres prédictions qui sont plus surprenantes, notamment en ce qui concerne le futur. Ce qu'on constate, c'est que en fait, le réchauffement, dans le cas du hêtre, dans ces populations-là, améliore largement les conditions à haute altitude, où vous voyez que non seulement potentiellement les dates sont un petit peu plus précoces, mais surtout le nombre de descendants maximum qu'on peut faire est bien meilleur quand le climat est plus chaud à haute altitude, ce qui est un peu logique parce que en fait, c'est effectivement la limite de répartition des arbres en fonction de l'altitude. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser à basse altitude, où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un effet défavorable du réchauffement, dans ces populations-là, ce qu'on constate essentiellement, c'est que déjà, on avait une sélection très faible avec toute une gamme de dates qui autorisait un bon succès, mais avec un climat encore plus chaud, c'est encore plus le cas. Donc, on ne voit pas vraiment de limite imposée par le changement climatique sur ce qui se passe au sud. Et donc, dans ce cas-là, en tout cas, pour ces traits et pour ces populations où il y a beaucoup de précipitations, en fait, le changement climatique ne cause pas l'extinction au sud, même si les populations n'évoluent pas. Alors, ces paysages suggèrent aussi que, juste je vais revenir peut-être en arrière, ces paysages de sélection qu'on prédit avec nos modèles, ils sont assez différents des formes bien régulières, quadratiques, que les modèles théoriques précédents avaient utilisées. Et on peut se demander en quoi c'est important la forme exacte de ces paysages de sélection. Alors, ça pourrait paraître un détail, quelque chose d'assez arbitraire. Et en fait, dans des circonstances où on s'intéresse à la dynamique de la maladaptation, on va voir que ça a un effet majeur. Alors ça, c'est une autre étude qui a été faite par d'autres collègues qui, justement, par curiosité, sont intéressés, ont repris le même modèle dont je vous ai parlé au départ, qui supposait une forme quadratique entre le nombre de descendants que laisse un individu. Et donc là, ce n'est plus la date de floraison, mais c'est une mesure du retard évolutif de la population. Donc la plupart des modèles mathématiques utilisent ce type de forme pour des raisons de commodité mathématique essentiellement. Et ils se sont demandé qu'est-ce qui se passe si on avait une forme de paysage un peu différente avec un nombre de descendants qui ne décroît pas de manière aussi abrupte, mais avec une espèce de queue comme ça dans la distribution. Alors, il se passe que ça a un effet assez majeur. Donc notamment, ce qu'on voit ici, c'est le nombre de descendants en fonction de la vitesse du changement climatique. Donc dans le scénario classique, on a une vitesse critique du changement climatique où on passe d'une population qui a un taux de croissance positif graduellement à une population qui a un taux de croissance négatif. Donc on passe d'une population viable mais qui croît très faiblement à une population non viable qui décroît faiblement et puis qui décroît de plus en plus vite. Donc on a un seuil effectivement de vitesse critique, mais on peut s'attendre à ce que si on approche d'un changement climatique proche de cette vitesse critique, donc par exemple si on était ici, on voit que la population a des problèmes démographiques. Et donc on peut potentiellement en être alerté, avoir des signaux d'alerte qu'on approche de ce seuil où la population va se mettre à décliner. Quand on change la forme de la sélection, on a quelque chose d'assez différent. Parce que cette fois-ci, voilà ce que fait le taux de croissance de la population. Donc il décroît, effectivement, quand on augmente la vitesse du changement climatique. Mais brutalement, on passe d'une population qui avait un taux de croissance positif, donc qui était capable de croître et de se multiplier, en brutalement, si on change un tout petit peu la vitesse du changement climatique, à une population qui décline fortement tout de suite. Donc il n'y a plus d'intermédiaire. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle typiquement un point de bascule. Donc c'est des états qui sont décrits de plus en plus dans les dynamiques écologiques et qui sont un sujet d'inquiétude pour pas mal de sujets en termes de gestion des écosystèmes, des changements globaux. Parce qu'on a des transitions abruptes et puis souvent c'est associé à des phénomènes de difficulté de retour en arrière. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un point de bascule évolutif. C'est à cause de l'évolution qu'on a cette transition abrupte. Ce n'est pas lié à une dynamique écologique en soi. Et la raison pour laquelle on passe d'une population parfaitement viable à une population complètement non viable et en déclin avec un tout petit changement de vitesse du réchauffement, c'est effectivement lié à la sélection, à la force de la sélection. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que en fait, le retard évolutif, que la force de la sélection, elle augmentait quand le retard évolutif il augmente. Que du coup, si on est très mal adapté ici, on a une vitesse d'évolution très forte. Et plus on s'éloigne de l'optimum, plus la force de la sélection, elle augmente. Avec cette forme de sélection, on a effectivement la pente qui va de ce paysage qui augmente. Donc, on a une force de sélection qui augmente jusqu'à ce qu'on passe à un point d'inflexion. Et en fait, quand on est dans une zone très mal adaptée ici, on a l'inverse, c'est-à-dire que plus le retard évolutif est grand, plus la pente est petite, et donc plus la force de la sélection diminue. Et donc là, on a un cercle vicieux complet, c'est-à-dire que plus on est en retard d'un point de vue adaptatif, plus la sélection est faible. Donc plus le retard va augmenter, et plus le retard va augmenter, plus la sélection est faible, et plus le retard va augmenter. Donc en fait, on a des situations où en fait, on n'a plus de stabilisation du retard évolutif, on prédit que le retard évolutif ne fait qu'augmenter perpétuellement et la population s'effondre à la fois d'un point de vue démographique et d'un point de vue évolutif. Elle arrête de s'adapter complètement. Alors, on pourrait dire que ces paysages, ces formes de paysages, c'est un peu aussi un truc sorti du chapeau par des modélisateurs mathématiciens, ça n'a pas vraiment de lien avec la réalité, pourquoi est-ce qu'on aurait ces formes-là de paysages? En fait, de plus en plus, on découvre que ce type de forme de paysage émerge de beaucoup de situations écologiquement ou biologiquement très réalistes. Et donc là, je vais vous parler d'un exemple particulier qu'on a trouvé indépendamment de cette étude théorique précédente et qui montre ce genre de dynamique complexe d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est des données sur cette petite plante aussi de milieu alpin qui montre qu'en fait, la sélection qui est liée au climat est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut penser. Notamment, ce qu'ont montré ces auteurs, c'est que si on regarde la date de floraison et qu'on regarde ses conséquences sur deux caractéristiques du cycle de vie des plantes. La première, c'est la probabilité qu'une plante qui a déjà fleuri survive une autre saison et fleurisse la saison d'après. Donc ça, c'est la courbe bleue. On voit qu'en fait, on a une date de floraison vers ici qui maximise la probabilité de survivre et de refleurir l'année suivante. Mais si on regarde une autre caractéristique qui affecte le nombre de descendants produits au cours de la vie d'un individu, qui est le nombre de graines que je vais produire cette année en fonction de ma date de floraison, là, par contre, il faut être le plus précoce possible pour produire le plus grand nombre de graines possible. Donc, on a une date optimale qui maximise la fécondité des individus qui est différente de la date optimale qui maximise la survie des individus. Et donc, ce n'est pas tout à fait évident parce que le nombre de copies de gènes qu'on va laisser au cours de sa vie, Ça dépend à la fois de l'événement de reproduction actuel, combien de graines je vais faire pendant cet événement de reproduction, mais aussi est-ce que je vais être capable de me reproduire une année suivante et refaire encore des graines. Donc on s'est demandé quelles étaient les conséquences de ces conflits entre différentes parties ou phases du cycle de vie pour l'adaptation au changement climatique. Alors c'est un projet qu'on a fait avec différents collaborateurs, et c'était le projet de master de Linnea Sandel et un projet de postdoc de Olivier Coton. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé un petit cycle de vie, où on a deux stades, on a des plantes immatures qui ne fleurissent pas encore, qui peuvent fleurir et maturer, et après, une fois qu'elles ont fleuri, elles peuvent fleurir, survivre et refleurir plusieurs fois, et puis en fait, quand elles se reproduisent, elles produisent des graines qui produisent des immatures. Et donc on a deux traits particuliers qui sont la fécondité des plantes qui se reproduisent et leur survie, qui potentiellement ont des dates de floraison optimales différentes. Et on suppose que le changement climatique fait changer ces deux dates au cours du temps. Alors ce qu'on a pu montrer, c'est que en fait, quand on a un conflit comme ça entre la survie et la reproduction, il existe quand même une date optimale de floraison qui maximise le taux de croissance de la population ou qui maximise le nombre total de descendants produits, qui est un compromis entre la date optimale qui maximise la survie et la date optimale qui maximise la fécondité. Et on est plus ou moins proche de l'une ou l'autre en fonction de poids, qui sont des quantités qui sont bien connues des démographes, mais qui ne sont pas très connues des autres gens, qui s'appellent des élasticités. Donc, par exemple, en fait, on va être plus proche de l'optimum qui maximise la fécondité si jamais le taux de croissance de la population est très sensible à un changement de fécondité. Donc, si votre taux de croissance de la population est faiblement affecté par un changement de fécondité, mais que dès que vous changez un petit peu la survie, ben, il y a un énorme effet démographique, du coup, de manière assez intuitive, ben, le compromis qui va favoriser l'évolution, c'est d'investir plutôt, enfin, c'est de favoriser des traits qui favorisent plutôt la survie que la fécondité. Donc mathématiquement, ces élasticités, elles se calculent comme des dérivées du taux de croissance de la population par rapport à un changement du paramètre d'intérêt, log du paramètre d'intérêt. Alors, ce qui se passe dans ces populations-là, quand il y a un changement climatique, c'est qu'effectivement, ben, du coup, au cours du temps, on imagine que ben, la date optimale qui maximise la fécondité, elle avance parce que le climat se réchauffe. La date de floraison optimale qui maximise la survie, elle avance aussi parce que se réchauffe. Et vous voyez ici en vert le compromis optimal qui maximise la croissance de la population. Donc si on était sur cette ligne verte, on aurait le plus fort taux de croissance, quel que soit le climat. Et comme précédemment, ce qu'on a, c'est que ça, c'est la valeur du trait qui évolue effectivement dans la population au cours du temps. Au départ, on est bien adapté, on est à cet optimum. Et puis comme le climat change, on accumule du retard et on finit par traquer notre optimum intégratif avec un retard constant. Donc il se passe toute la même chose que dans un cycle de vie moins complexe. Par contre, les conséquences, c'est que comme on a du retard et qu'on est plus tardif ce qu'il faudrait qu'on fasse, bah, du coup, on est plus proche de la date qui maximise la survie et plus loin de la date qui maximise la fécondité que dans un environnement constant. Et la conséquence de ça, c'est qu'au cours du temps, avec le changement climatique, ce que prédit ce modèle, c'est que la survie des individus augmente, mais leur fécondité diminue. Et donc si on observait des données comme ça dans une population naturelle, on serait tenté de dire... Alors déjà, le risque, c'est que potentiellement, on pourrait avoir mesuré simplement la survie et pas la fécondité. Et donc, on pourrait dire, ah, ben, c'est super, en fait, le changement climatique augmente la survie des individus dans ma population, donc finalement, il y a des effets bénéfiques. Donc, on ne voit pas, c'est qu'il y a une autre composante du cycle de vie qui est en train de diminuer en même temps. Et on pourrait aussi être tenté de penser que c'est le réchauffement du climat en lui-même qui favorise un changement d'histoire de vie. C'est-à-dire, quand il fait chaud, il vaut mieux pas investir dans produire des graines, il vaut mieux investir dans produire, de survivre d'une année sur l'autre. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ce changement-là qu'on voit dans ce modèle, il est simplement dû au fait que les populations ne s'adaptent pas assez vite pour traquer leur optimum évolutif. Si elles s'adaptaient très très vite, on ne verrait pas du tout de changement d'histoire de vie. Et donc, notamment, ce qui se passe, c'est que dans certains cas particuliers, il se passe même quelque chose de pire, c'est-à-dire qu'on voit que les populations évoluent des taux de survie enfin, de plus en plus forts, mais des fécondités tellement faibles qu'en fait, elles ne peuvent plus se maintenir. Donc là, on a une population qui s'adapte, mais s'adapte en favorisant des traits qui favorisent la survie au détriment de la fécondité, ce qui ne permet plus leur persistance. Donc c'est pareil, on a une population qui décline et qui est en train de s'éteindre, mais certaines composantes du cycle de vie sont toujours en train de s'améliorer. Donc en fait, on aurait des messages très contradictoires si on observait ce genre de situation dans la nature, c'est-à-dire qu'on pourrait être trompé en pensant que la population en fait, va très bien, alors que si on intègre tout le cycle de vie, on s'aperçoit qu'en fait, elle est en train de s'éteindre. Et ça, c'est une situation de piège évolutif, c'est-à-dire que si la population n'évoluait pas, potentiellement, dans ce genre de scénario, elle pourrait échapper à l'extinction. Et donc, pourquoi on a ce genre de piège et ce genre de phénomène de point de bascule dans ce scénario-là, avec des cycles de vie différents ? Parce qu'effectivement, si par exemple, on a un retard évolutif grand qui affecte, c'est-à-dire que la date de floraison est vraiment différente de la date qui maximise la fécondité, ça va avoir tendance à diminuer la fécondité dans la population. Et si la fécondité diminue la population, ça diminue aussi la contribution de la fécondité au taux de croissance de la population. Donc ça diminue cette élasticité démographique de la croissance de la population à la fécondité. Et ça diminue la force de la sélection qui affecte la fécondité. Et cette force de sélection plus faible va faire plus de retard. Donc on est de nouveau dans ce type de cercle vicieux dont on a parlé précédemment. Mais en fait, là, ce qui génère ce cercle vicieux et ces paysages de sélection bizarres, c'est qu'il y a, dans ce cas-là, de fait, une interaction entre l'évolution et la démographie de la population. Donc là, je voulais juste conclure cette partie en disant qu'en fait, on a fréquemment ce type, ce n'est pas un cas isolé, l'exemple dont je vous ai présenté sur cette plante, fréquemment des effets antagonistes des adaptations au climat sur différents éléments du cycle de vie, ça c'est quelque chose qui a été un peu sous-estimé jusqu'à présent, et que les retards adaptatifs dans un climat changeant, ça peut causer des modifications du cycle de vie qui sont mal adaptatives, et potentiellement des boucles de rétroaction qui font que les dynamiques d'adaptation au changement climatique deviennent extrêmement complexes et difficilement prédictibles. Alors, le dernier point que je voulais aborder, c'est les notions d'espace. Parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé des défis d'adaptation uniquement dans une population unique confrontée à un climat changeant. En réalité, comme on l'a vu en introduction, en fait, le climat il varie le long de gradients dans l'espace. Et donc, en fait, ces populations elles sont interconnectées par de la dispersion et de la migration. Et ça, c'est une importance particulière pour comprendre aussi les dynamiques à la fois de recolonisation et de changement de distribution, mais aussi les dynamiques évolutives dans un climat changeant. Donc globalement, ce qui se passe quand on regarde l'aire de distribution d'une espèce, on a l'espace géographique, on a le climat qui change le long de cet espace, on a des traits différents des populations locales, par exemple la taille, en fonction du climat local, avec des valeurs de traits qui sont bien adaptées à différents climats. Et au cours du temps, ce qui se passe, c'est que le climat change. Et comme on l'a vu en introduction, ça crée une maladaptation locale où les traits des génotypes locaux ne sont plus en accord avec le climat qu'ils expérimentent. Donc il y a différentes manières de résoudre cette maladaptation. La première, celle dont on a discuté, c'est pas de changement de distribution géographique. Les plantes ne se déplacent pas dans l'espace, mais une évolution des traits dans chacune des populations de façon à s'adapter au nouveau climat. Et donc, dans ce scénario-là, on n'a pas de changement de la distribution géographique de l'espèce. Par contre, on a des valeurs de traits dans le climat nouveau qui n'étaient pas présentes dans le climat passé. Donc, les limites de niche ont changé. Donc, la distribution des traits dans l'espèce a changé, pas sa distribution géographique. Et inversement, on peut imaginer, parce que ce n'est pas ça qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir extinction dans les zones où le climat n'est pas favorable. Et puis, on va avoir un réarrangement de la diversité génétique dans l'espace par migration qui va faire que les génotypes adaptés à ces climats-là, qui ne sont plus dans leur population, vont migrer et devenir fréquents dans des climats qui sont plus adaptés. Et du coup, ça fait un scénario où, potentiellement, on a cette fois-ci un changement de distribution géographique, mais si on regarde la gamme des traits qu'on voit à l'intérieur de l'espèce, par exemple les gammes de taille qu'on a ici, c'est les mêmes que dans le passé. Du coup, on a un conservatisme de la niche écologique. Et de manière intéressante, cette prédiction-là, il y a eu un modèle aussi dans... c'est pas la bonne date, c'est 1989, je suis désolée. Un modèle dans le début des années 90, fin des années 80, qui a prédit que même si on met dans le même modèle de l'évolution et de la dispersion, eh ben, c'est plutôt ce scénario-là qui va tout le temps se passer. C'est-à-dire que si on donne le choix entre migrer et s'adapter en changeant la distribution géographique ou en restant sur place et en changeant les limites de niche, ben, de manière curieuse, c'est plutôt toujours ce scénario-là qui se passe. Et donc ça donnerait raison au modèle de niche qui ignore complètement l'évolution, parce que, en fait, là, c'est exactement ce qui se passe. La distribution change, la gamme de phénotypes ne change pas, et donc, en fait, si on prend les limites de niche dans le passé, on peut tout à fait les projeter dans l'avenir, on comprend où l'espèce va être et quelle va être sa distribution de traits. Alors, ces premières prédictions de ce modèle ont été ensuite remises en cause par des modèles qui ont pris en compte différents ingrédients qui dévient des hypothèses initiales du modèle de Pizetal. Notamment, ben, le modèle d'Alexandre Kubisch et collaborateurs, lui, ce qu'il a rajouté comme ingrédient, c'est que les capacités de dispersion peuvent évoluer quand une espèce s'étend géographiquement, et notamment ce qu'on observe souvent, c'est qu'on sélectionne pour plus de dispersion dans la zone d'expansion géographique. Et dans ce cas-là, ce qu'il prédit, c'est qu'en fait, on observe un déplacement plus rapide que le changement climatique. Et de manière très paradoxale, alors que le climat se réchauffe, les espèces évoluent des niches climatiques qui sont plus adaptées à des climats froids. Donc en fait, la niche se refroidit alors que le climat se réchauffe parce qu'il y a une vitesse d'expansion plus rapide dans les zones où le climat devient favorable qui favorise en fait la colonisation de climats plus froids. Alors nous, ce qui nous avait intéressé là-dedans, c'était de considérer que les plantes, en fait, les mécanismes d'échange de gènes entre les populations, ils dépendent de deux types de dispersion. Donc il y a une dispersion des graines chez les plantes, qui au maximum est de l'ordre de 10 km, souvent dans les études. Mais en fait, le pollen, qui disperse les gènes sans coloniser les nouvelles populations, peut se disperser sur des distances de l'ordre de 1000 km. Donc en fait, il y a beaucoup plus d'échanges génétiques que de capacité de colonisation de l'espace. Et donc on a intégré ça dans un modèle similaire de dispersion conjointe et d'adaptation dans un environnement hétérogène et qui change au cours du temps. C'est un travail qui était le postdoc de Robin Aguilet. Et ce qu'on a trouvé dans ces circonstances, c'est que en fait, quand on ajoute la dispersion du pollen à ce modèle, on prédit un déplacement moins rapide que le changement climatique, mais une adaptation à un climat plus chaud, et donc les phénomènes de résilience en marge sud, avec une niche climatique qui devient plus thermophile, qui s'adapte plus à des climats chauds, et qui permet de rester sur des sites où on était déjà présent. Alors ces modèles, ces différents modèles, pour moi, éclairent un petit peu ces résultats qui sont issus d'observations de déplacement d'espèces, en montrant comment, effectivement, en fonction des hypothèses, on peut effectivement prédire que les espèces peuvent se déplacer plus vite que le climat ou moins vite que le climat. Et donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, le changement climatique, il cause déjà des changements phénotypiques et génétiques et dans la distribution géographique des espèces qu'on documente abondamment et qui seront, encore une fois, synthétisés dans le prochain rapport du GIEC qui va sortir le 28 février du groupe 2 de synthèse. Mais malheureusement, ces adaptations ne sont pas suffisantes nécessairement pour empêcher les extinctions. Parce que le problème de l'adaptation dans le contexte d'un environnement changeant comme le contexte du changement climatique, ce n'est pas simplement un problème d'évolution, c'est un problème d'une course entre deux processus qui sont la vitesse de l'évolution et la vitesse du déclin des populations. Donc ça implique de considérer ensemble la démographie, la dynamique démographique et l'évolution et de faire que globalement les écologistes et les évolutionnistes sont obligés de se parler pour résoudre ce problème-là. Et donc, prédire le destin des espèces, pour revenir aux questions qu'on a posées en introduction, ça implique vraiment de quantifier ces dynamiques. Ce n'est pas juste une question qualitative, c'est une question de combien, à quelle vitesse on va évoluer et à quelle vitesse, quel est l'impact démographique exact de ces changements. Et donc, pour l'instant, j'avoue qu'on n'en est pas tout à fait là. Donc, ces modèles éco-évolutifs que je vous ai présentés, ils nous aident mieux à comprendre la complexité de ces dynamiques et les forces d'incertitude qui sont liées au rôle de l'évolution dans ces réponses. Mais du coup, il soulève aussi que la tâche est encore plus compliquée que celle qu'on pensait initialement à cause de tous ces phénomènes de points de bascule, d'effets historiques, d'absence de retour en arrière, que ces boucles de rétroaction entre l'écologie et l'évolution impliquent. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.